Théologie mystique par le Père Philippe, Saint-Joseph, le 31 janvier 80.
Continuons ce grand discours, ce grand enseignement de Jésus, cet enseignement prophétique de Jésus. Donc je reprends verset 15. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, vous garderez les commandements, les miens. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet pour être avec vous à jamais. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit ni ne le connaît. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure chez vous et qu'il sera en vous. Voilà la première manière de prophétiser la venue du paraclet. Vous voyez que c'est Jésus qui se fait l'avocat auprès du Père, donc le médiateur auprès du Père, pour que le Père nous donne un autre paraclet. Jésus étant le premier paraclet. Et toute la différence entre ce second paraclet et Jésus, c'est pour être avec vous à jamais. Il est donné d'une façon invisible, mais il est donné d'une façon où il n'y a plus de départ. Et ce paraclet, c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. C'est tout de suite ça qui est affirmé. C'est-à-dire, il est donné d'une manière invisible. Il est donné à travers le mystère de la foi. Le monde, c'est ce qui reçoit les choses d'une façon sensible. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure chez vous. Vous voyez bien cette affirmation. Le paraclet, il va venir et il est déjà présent. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure chez vous et qu'il sera en vous. Il demeure chez vous et il sera en vous. Il y a comme une affirmation d'une présence nouvelle et d'une présence plus profonde du paraclet, mais qui est déjà présent. Et cette présence du paraclet permet de le recevoir. C'est la grâce de Dieu qui nous permet de recevoir sa grâce. Et la présence du paraclet permet de recevoir le paraclet. Et c'est Jésus qui a donné déjà ce premier paraclet. C'est-à-dire qui a donné son esprit. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne m'apercevra plus. Mais vous, vous m'apercevrez. Parce que moi, je vis et que vous aussi, vous vivrez. Vous voyez l'opposition entre le monde et les disciples, hein, qui est donnée d'une façon extrêmement nette. Et cette opposition entre le monde et les disciples est d'autant plus forte dans la lumière du paraclet, dans la lumière de l'absence de Jésus. Jésus ne veut pas nous laisser orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. Alors, quelle est cette venue ? Est-ce que c'est la venue par l'Esprit Saint ? Est-ce que Jésus nous est donné par l'Esprit Saint aussi ? Encore un peu de temps et le monde ne percevra plus, mais vous, vous m'apercevrez, parce que moi je vis et que vous aussi vous vivrez. En ce jour, vous connaîtrez, vous, que moi je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Est-ce que Jésus fait allusion aux apparitions ? Je ne crois pas. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est quelque chose qui est justement cette venue invisible de Jésus. Encore un peu de temps et le monde ne m'apercevra plus, mais vous, vous m'apercevrez, parce que moi, je vis et que vous aussi, vous vivrez. Alors, Jésus vit dans l'amour et par l'esprit. Et nous vivons dans l'amour et par l'esprit. Et donc, il y a cette communion de vie, cette unité de vie. Et par cette unité de vie, Jésus n'est plus absent, il est présent. En ce jour-là, vous connaîtrez, vous, que moi je suis en mon Père, vous en moi et moi en vous. C'est donc bien cette présence invisible dans la foi, dans l'amour, et cette présence qui se fera toujours plus forte jusqu'au retour glorieux du Christ. Le retour glorieux du Christ est quand même présent à travers tout cela. Je crois qu'on ne peut pas le nier. En ce jour-là, c'est assez déterminé ce jour-là. Vous connaîtrez, vous, que moi je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai et me manifesterai à lui. Donc c'est bien cette manifestation intérieure, cette lumière intérieure, cette connaissance intime et mystique dont parle Jésus. Je crois que c'est bien cela qu'il faut reconnaître dans la lumière de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint est donné pour cela. Il est donné pour que nous ne soyons pas orphelins. C'est-à-dire pour que nous soyons rattachés à Jésus et que nous comprenions le lien de Jésus et du Père. Bon, si vous voulez, on pourrait dire que ces versets 18, 19, 20 et 21 nous montre tout le réalisme de la vie mystique, tout le réalisme de notre vie chrétienne. Notre vie chrétienne est une vie qui se fait dans l'esprit, et par l'esprit, le Christ est présent et le Père est présent. Vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai et me manifesterai à lui. C'est donc bien dans cet amour donné pleinement par l'Esprit Saint que l'absence de Jésus ne rend pas orphelin. Et ça, je crois, ce que nous devons saisir et vivre. Grâce à l'Esprit Saint, l'absence du Christ ne nous rend pas orphelins. Nous ne vivons pas comme des êtres qui sont séparés de leur source. L'orphelin, c'est celui qui est séparé de sa source. C'est celui qui ne peut plus vivre pleinement, parce qu'il est séparé trop vite de sa source, à une heure qui n'était pas normale. Ça, être orphelin. C'est quand on a encore besoin de l'affection de ses parents et qu'on est sevré de cette affection. Alors on est orphelin. Et alors, on pourrait dire que les apôtres ne sont pas encore assez forts pour que Jésus les quitte. Non, ce n'est pas vrai grâce à l'Esprit Saint. C'est par l'Esprit Saint qu'ils pourront de fait avoir cette autonomie suffisante et surtout cet amour suffisamment fort pour que l'absence ne soit pas vécue comme une absence, mais que l'absence soit vécue comme une nouvelle présence, et une nouvelle présence qui se fait par le don de l'Esprit Saint. Je crois que c'est comme cela que nous devons interpréter ce passage. Oui, ça ne peut s'interpréter que d'une façon intérieure. Judas, non pas l'Iscariote, lui dit « Seigneur, comment se fait-il alors que tu doives te manifester à nous et non pas au monde ?» Ça, l'inquiétude de Judas. Non pas l'Iscariote. Seigneur, comment se fait-il alors que tu doives te manifester à nous et non pas au monde ? Jésus répondit et lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Ce texte qui est si important, parce que c'est toute la définition de la vie mystique qui nous est donnée là. Elle est déjà présente avant, mais elle est renforcée. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et il viendra vers lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendrez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Grâce à l'interrogation donc de Judas, à l'inquiétude de Judas, qui est pleine de miséricorde, vous voyez, comment se fait-il ? Et Jésus ne répond pas. Hein. C'est là qu'il manifeste. Jésus répond positivement et pas négativement. Judas pose le dilemme. Comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non pas au monde ? Jésus ne l'a pas dit. Là, c'est lui qui ajoute ça. Comme nous avons toujours besoin, nous, de penser dialectiquement. Alors, si on affirme d'un côté, on doit nier de l'autre. Et Jésus répond uniquement par l'affirmative. C'est aussi très étonnant. Occupe-toi de ta grâce et vis de cette grâce. Et vis pleinement de cette grâce et ne dis pas pourquoi, comme si tu voulais faire la justice à Dieu. Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à l'un et ne la donne pas à l'autre ? De temps en temps, on s'inquiète de ça. On dit comment ça se fait-il ? Et Jésus nous donne la très bonne leçon, là, de ne pas nous en occuper de ça, si ce n'est pour prier pour lui. Mais nous n'avons pas à connaître le point de vue de la sagesse de Dieu. Ça nous échappe, c'est quelque chose qui est plus grand que nous. Et Jésus répond uniquement de cette manière-là. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, puisqu'il garde ma parole. Et nous viendrons vers lui, et nous ferons chez lui notre demeure. La demeure du Père et la demeure du Fils. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole, ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui l'a envoyé. Pour ça, garder la parole de Jésus, c'est rester dans la présence du Père. Donc, je crois qu'on peut rattacher tout ce qui a été dit jusqu'ici à cette première manifestation de l'Esprit-Saint. Parce que c'est la théologie de l'Esprit-Saint qu'il faut essayer de comprendre, là. De sorte que, vous voyez, quand on a un petit sous-titre, du moins comme Austin, un petit sous-titre, à partir du verset 18, je ne sais pas s'il faut le faire, moi je ne le ferai pas. Je mettrai tout ça dans la perspective même du don de l'Esprit. C'est vraiment l'Esprit Saint qui est là. Je ne vous laisserai pas orphelin. C'est l'Esprit c'est l'Esprit du Christ qui nous empêche d'être des orphelins. Alors, second moment. Je vous ai dit cela quand je demeurerai auprès de vous. Donc, je vous ai dit cela quand je demeurerai auprès de vous. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, qu'enverra le Père en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Alors vous voyez ici de nouveau la situation différente de Jésus par rapport à l'envoi de l'Esprit Saint. C'est ça qu'il faut essayer de préciser. Hein. Le Paraclet, l'Esprit Saint, qu'enverra mon Père. C'est toujours le Père qui l'envoie. Mais il l'envoie en mon nom. Alors, vous voyez, il y a deux situations différentes.
plus crainte. Toujours lui qui envoie l'Esprit Saint. Mais le Fils, Jésus, le Christ, je t'envie. Quand on demande, on peut être tout à fait extérieur, je ne veux pas dire plus. Hein. Demander, c'est, ça ne veut pas dire être à l'intérieur même de cet envoi. Tandis qu'ici, en mon nom, donc, l'autorité du Christ, envoyée au nom du Christ, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus intérieur. On ne peut pas dire que c'est extérieur. Le Christ n'est plus à l'extérieur de l'envoi. Envoyé au nom du Christ, de la part du Christ. Le Christ donc intervient ici de cette manière, je dirais, dont on ne peut pas encore préciser exactement, qu'enverra le Père en mon nom. Donc en mon nom, c'est la personne, le nom. C'est le Père qui envoie plus que de la part. C'est l'autorité, je crois, au sens très très fort, en mon nom. Lui vous enseignera tout et vous rapportera tout ce que moi je vous ai dit. Alors, on voit très bien que là, le rôle de l'Esprit est lié directement à Jésus. Son rôle, c'est de faire que les paroles de Jésus soit reçu comme des paroles divines, toujours en acte. Et c'est pour ça que le lien avec Jésus est beaucoup plus fort qu'enverra le Père en mon nom. Lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Alors, la paix, c'est aussi un des fruits de l'Esprit Saint. Ce n'est pas comme le monde la donne que moi je vous la donne. Que votre cœur ne se trouble pas, ni ne s'intimide. Vous avez entendu que moi je vous ai dit, je m'en vais et je viens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit cela avant que cela n'arrive, pour qu'une fois la chose arrivée, vous croyez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient, le chef du monde. Sur moi, certes, il ne peut rien, mais c'est pour que le monde connaisse que j'aime le Père et que selon que m'a commandé le Père, ainsi je fais. Levez-vous, partons d'ici. Cette chose assez ultime et dernière du rôle de l'Esprit Saint. Nous voyons donc que l'Esprit Saint ici est plus intimement lié au mystère de Jésus. Il est lié au mystère de Jésus parce que le Père l'envoie en regardant son Fils, on pourrait presque dire ça, en mon nom, en regardant le Fils. Le Fils n'est plus à l'extérieur, il est à l'intérieur. Le Père regarde le Fils, en mon nom. Alors, ce n'est pas dit d'une façon d'efficience, c'est dit d'une façon de connaissance et d'amour. Et alors immédiatement, on comprend que le rôle de l'Esprit Saint, le rôle du Paraclet, c'est de faire que l'enseignement du Christ soit pour nous un enseignement vivant. C'est le rôle de l'Esprit Saint. C'est de faire que l'enseignement du Christ soit actuel. Ce ne soit pas un enseignement qui soit reçu dans le passé. Mais ça, c'est capital. Vous comprenez bien, c'est capital. Ça fait dégringoler toute l'herméneutique. Si on comprend bien. Vous comprenez l'herméneutique, je le dis parce que je crois qu'il faut comprendre ces choses-là à partir de l'écriture. et en comprendre tout le réalisme et toute la force. L'herméneutique de Kuhlmann, à partir de Heidegger, vous comprenez bien, les apôtres ont écrit 30 ans après la mort du Christ, à peu près, 20 ans plus, c'est le meilleur, publication. Mettez 25 ans. Et ce qu'il faut rappeler, maintenant, c'est pour certains, c'est un peu difficile. Essayez de vous rappeler un événement vécu il y a 25 ans, si fort que soit cet événement, 25 ans après. On comprend, il y a des tas de choses qui sont passées. Si on ne l'a pas écrit tout de suite, c'est du vécu, alors le vécu, au niveau proprement de la phénoménologie, c'est du vécu, 25 ans vécu. Alors, toute la distance qui existe entre la réalité et le vécu. Alors, comment se fait ce lien? C'est tout simplement le milieu dans lequel le vécu existe. Il faut voir la distance qui existe entre ce milieu dans lequel il vécu le Christ au moment où les apôtres écrivent, et puis la réalité première. Si je coupe le mystère de la tradition, si je ne vois pas, je suis donc en face d'un récit historique qui signifie avant tout le milieu dans lequel je vis. Et regardez ce qui a été donné avant, déjà très estompé. Tandis que si je reçois cette parole qui donne l'explication, ça donne l'explication. Qu'enverra le Père en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Donc, entre l'apôtre qui est ici à 25 ans après et le mystère du Christ dans ce chapitre, juste avant la croix, c'est l'esprit de vérité qui fait le lien. Mais ceci, je ne peux pas le saisir avec une méthode historique. Je crois en l'Esprit Saint qui fait cette unité, qui fait que depuis le mystère de la croix du Christ, au moment même où les apôtres écrivent, il y a un lien mystérieux, la présence de l'Esprit, qui fait que ce que le Christ a dit et ce qui est vécu, il n'y a pas de distance. Grâce à l'Esprit Saint. Et vous voyez, ça, c'est une donnée qui, au point de vue de méthode historique, ne peut pas être saisie. C'est en dehors de l'histoire. Ça ne peut être que cru. Seul le croyant peut le comprendre. Et personne d'autre ne peut le comprendre. Le croyant comprend que l'Esprit Saint est donné pour que la parole du Christ soit actuelle. Par l'Esprit Saint, la parole du Christ est actuelle. Donc, elle dépasse le temps. Elle est au-delà du temps. Que le Père enverra en mon nom, très significatif, à travers la personne de Jésus. En mon nom, la personne du Christ est en présence. Lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Ce n'est plus une mémoire humaine, ce n'est plus un milieu humain. C'est l'Esprit Saint lui-même et personnellement qui fait que la parole du Christ et tous les gestes du Christ et tous les événements du Christ sont actuellement présents. Vous voyez ? C'est important de le saisir à partir même du mystère de l'Esprit Saint. et à partir même du mystère de ce qu'est la tradition, puisque la tradition, c'est l'Esprit Saint qui fait la tradition dans le cœur des saints, dans le cœur des apôtres, dans le cœur de Marie. Donc ça, c'est capital. Essayer de saisir ce que ça représente. Et encore une fois, cela ne peut pas se contrôler, puisque le monde ne le connaît pas. Et par le fait même, il ne le connaît pas, parce qu'il ne le voit pas. Or, le monde, c'est le monde des méthodes. Le monde, c'est ce que l'homme est capable de faire. C'est toute la culture humaine. L'envoi de l'Esprit Saint est quelque chose de plus secret, de divin, qui fait que cette succession du temps est résorbée par la présence de l'Esprit Saint. Je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas comme le monde la donne, que moi je vous la donne. On donne cette paix par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui met au-dedans de nous-mêmes cette paix, c'est-à-dire qui nous permet de découvrir quelle est la volonté du Père et de nous conformer à cette volonté du Père. C'est par l'Esprit Saint que je peux découvrir cette volonté du Père et cette volonté actuelle du Père. Que votre cœur ne se trouble pas ni ne s'intimide. Vous avez entendu que moi, je vous ai dit, je m'en vais et je viens vers vous. Ce qui a été dit précédemment. L'Esprit Saint comble le vide. Si vous m'aimez, si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. C'est bien l'Esprit Saint qui donne cette joie, et seul l'Esprit Saint peut donner cette joie. L'Esprit Saint fait comprendre qu'il n'y a pas d'absence, que le Christ est plus présent à nous auprès du Père qu'il ne l'était présent quand il était en Judée. Il est plus présent, puisqu'il participe à une présence divine, une présence unique. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Jésus doit être auprès du Père et vivre tout ce que le Père vit. Et maintenant, je vous ai dit cela, avant que cela n'arrive, pour qu'une fois la chose arrivée, vous croyez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le chef du monde. Cette volonté expresse du Christ de se taire, d'entrer dans le silence du Père. Et donc, extérieurement, de laisser toute la place au chef du monde. Il vient. De laisser toute la place. Et donc de se taire. Sur moi, certes, il ne peut rien. Mais c'est pour que le monde connaisse que j'aime le Père. Et que selon que m'a commandé le Père, ainsi je fais. Jésus nous fait comprendre le pourquoi de cette permission du silence du Père. Le pourquoi de ce silence de la toute-puissance de Dieu. Et le pourquoi de cette permission divine qui fait que Jésus est attaché au bois comme un prisonnier. Parce qu'il ne peut rien vis-à-vis de Jésus. Mais c'est pour que le monde connaisse que j'aime le Père. Si le Père laisse au démon un tel pouvoir, pouvoir crucifier Jésus, pouvoir l'attacher sur du bois comme un maudit. C'est pour que le monde connaisse que j'aime le Père. C'est pour cette vérité intérieure du lien plus grand que tout, l'amour est plus fort que la mort. Pour faire comprendre que l'amour qui unit le Fils bien-aimé au Père dépasse la mort. C'est pour que le monde connaisse que j'aime le Père. Et que selon que m'a commandé le Père, ainsi je fais. Et pour montrer que cet amour le conduit à une obéissance totale qui implique la mort. Alors, maintenant nous avons quelque chose de très différent. Chapitre 15, cette dernière vision sur l'Église, cette dernière connaissance de la révélation sur l'Église, dernière, dernière par rapport à l'enseignement du Christ, c'est sûr, pas dernière par rapport à l'enseignement de Saint Paul qui est venu après. Mais qui est dernière dans l'enseignement du Christ et qui a été écrite en dernier lieu. On peut dire ça. Et Jésus a voulu que ce soit écrit en dernier lieu. Moi, je suis la vigne, la véritable, et mon Père est le vigneron. C'est très rare que nous voyons le rôle du Père par rapport à l'Église. Or, ici, on voit bien le rôle du Père par rapport à l'Église. Vous voyez, on parlera de l'Église du Verbe incarné, cardinal Journet. L'Église du Verbe incarné. L'Église menée par l'Esprit Saint. L'Église qui provient du Père et qui retourne vers le Père. C'est très important pour nous de comprendre ce lien qui nous est montré ici entre le mystère du Père et le mystère de l'Église, la vie, la véritable. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il les montre. La présence du Père se manifeste en premier lieu par son châtiment, par la tâche du Père. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'émonde. Et tout sarment qui porte du fruit, il le purifie pour qu'il en porte davantage. Pur, vous l'êtes déjà, vous, à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut porter de fruits par lui-même s'il ne demeure en la vigne, ainsi vous non plus si vous ne demeurez en moi. Alors ici, je crois qu'il faut, pour bien comprendre ce chapitre 15, essayer de comprendre et mettre en parallèle avec les autres grandes comparaisons que nous connaissons bien de saint Paul par rapport au mystère de l'Église. Vous allez voir, le Christ est la tête et nous sommes les membres. C'est la plus connue, c'est celle du corps mystique. Le Christ est l'époux. Le Christ est la pierre angulaire. Et nous sommes les autres pierres. Pour constituer le temps. Je crois que ces trois comparaisons que nous donne saint Paul correspondent, si vous réfléchissez, sur les trois grandes expériences que nous avons de l'unité. Il n'y en a pas 36, hein. Il y a trois grandes expériences de l'unité. L'expérience au niveau du vivant, quand on est en pleine santé, il y a une unité profonde de la tête et des membres. Dès qu'on est en moindre santé, on commence à avoir mal. J'ai mal au bras, j'ai mal à l'estomac, j'ai mal aux dents. Oui, c'est très net. Tandis que lorsque je suis en pleine santé, il y a l'unité du vivant. Et c'est une unité substantielle. C'est bien une unité substantielle. Il n'y a pas de... Surtout aujourd'hui, on peut détecter ça d'une façon encore beaucoup plus forte qu'avant. Si vous retrouvez le tibia d'un saint à côté de son crâne, vous pourrez savoir si c'est le même saint ou si entre deux, au Moyen Âge, on avait des compositions, d'unir les deux, des petits vols et des petits raptes. Et là, vous découvrez que ce n'est pas du même saint. Donc, il y a une unité substantielle, mais qui va très très loin. Cette unité substantielle, le même nombre, hein, le nombre du vivant, qui fait qu'au point de vue morphologique, il y a une unité profonde dans le vivant. C'est très beau, parce que c'est là où la science apporte quelque chose pour comprendre cette comparaison. L'unité substantielle des membres de la tête. Entre l'époux et l'épouse, c'est une unité intentionnelle. Vous pouvez dire, oui, c'est la forme intentionnelle, l'unité intentionnelle dans l'amour, dans le même idéal, le même vouloir, l'unité dans l'intentionnalité. Et lorsqu'il s'agit de la pierre et le temple, vous avez l'unité de forme. L'expression. Nous avons ces trois expériences. Hein. Cherchez s'il y en a d'autres, vous n'en trouverez pas. Très très étonnant que l'Esprit Saint, c'est normal, hein. L'Esprit Saint se sert de trois expériences dites de l'unité pour exprimer ce que c'est que l'unité du corps, l'unité de l'Église, hein, l'unité de l'Église. L'idée du corps mystique, du temple de l'Esprit Saint. Et alors chaque fois, vous voyez, ici, c'est l'Esprit Saint. Là, c'est le Christ tête, c'est le bout de l'épaule. Vous voyez que ces trois types d'unités sont irréductibles les unes par rapport aux autres. Eh bien, vous retrouvez, et c'est ça qui me semble très important, vous retrouvez dans ce chapitre 15 le Saint, la vie. Ce n'est plus la tête. Ce n'est plus la tête. C'est le Christ qui est la véritable vie, qui est le tronc. Vient la chasse. Unité substantielle. Mais vous voyez, l'unité substantielle d'une réalité plus grossière que le corps humain. mais c'est la même unité substantielle. Évidemment, je n'ai pas l'expérience de cette unité de la vigne, tandis que j'ai celle du corps et des membres. Mais c'est la même unité, mais je n'ai pas l'expérience. Mais une fois que j'affirme celle-ci, je vais affirmer celle-là. Celle-ci, j'ai l'expérience, celle-là, et à partir de là, je peux affirmer qu'en effet, il y a cette comparaison-là. Elle est révélée. Alors, regardez bien. Vous avez ensuite la taille du Père. La taille du Père, c'est... La vigne, c'est un arbre très différent des autres, qui est plus taillé que n'importe quel autre. Et parce qu'il est plus taillé, c'est une œuvre d'art. Et c'est vrai, quand vous regardez la taille de sa pied de vigne, c'est une œuvre d'art. Il y a le rôle du Père. Taille de cette vigne qui devient une œuvre d'art. Une œuvre d'art dont pour le Père. Et cette œuvre d'art a quelque chose de particulier qui ne peut pas affirmer ici, le point de vue de la fécondité. Donc, ici nous retrouvons les deux comparaisons, mais il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, la fécondité. La fécondité n'était pas donnée dans les autres comparaisons. Ici, la fécondité est donnée et elle nous fait même comprendre le sens de la taille du Père. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'émonde. Et tout sarment qui porte du fruit, il le purifie pour qu'il en porte davantage. Le fruit. Pur, vous l'êtes déjà. Vous, à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. Demeurez. Ça, c'est l'amour. De l'époux et d'épouse. Vous avez donc les trois lignes de l'unité qui sont présentes. Et vous avez quelque chose de nouveau qui est le mystère de la fécondité. C'est la vie. Alors ça, on pourrait aller très loin, et ce serait intéressant à préciser. C'est que, de fait, la fécondité de la vigne, c'est pas directement sur le tronc, c'est sur les branches. Comme si, de fait, Jésus s'effaçait devant son Église. C'est les branches qui portent le fruit, c'est pas le tronc. Et c'est sous-jacent ce qui nous est montré ici. Vous voyez, tandis que dans la comparaison de la tête, tout est dans la tête. Dans la comparaison de la vigne, les fruits sont sur les rameaux, sur les branches. Il y a comme un effacement du Christ pour le mystère de la fécondité. Je crois qu'on peut dire ça. Ça fait partie du mystère de l'Église. Le Christ s'efface devant son Église. On voudrait bien souvent que le Christ se manifeste un peu plus. Et le Christ s'efface et laisse l'Église comme le vivant qui doit porter les fruits. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut porter de fruits par lui-même s'il ne demeure en la vigne. Ainsi, vous non plus si vous ne demeurez en moi. Donc, l'amour qui lie la taille du Père est pour la fécondité, et pour que la fécondité existe, il faut demeurer, uni au tronc, uni à la vigne. Pour un amour qui unit toujours plus au Christ. Et la taille du Père est faite pour que, de fait, on soit toujours de plus en plus unis au tronc, pour porter beaucoup de fruits. De même que le sarment ne peut porter de fruits par lui-même s'il ne demeure en la vigne, ainsi vous non plus si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis la vigne, vous les sarments. celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. C'est dit de la manière la plus absolue qui soit ici. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette dehors, comme le sarment, et il sèche. Et les sarments, secs, on les ramasse, et on les jette au feu, et ils brûlent. Donc, on montre le sort du sarment séparé du tronc. Il n'a plus aucune vitalité et plus bon qu'être jeté dehors. On les ramasse et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous vous... Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous deveniez mes disciples. Donc c'est bien, tout est centré sur l'union avec le tronc, avec Jésus. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans l'amour, le mien. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez en mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et demeure en son amour. Si je vous ai dit cela, pour que la joie, la mienne, soit en vous, et que votre joie trouve sa plénitude. Le désir du Christ, c'est que nous portions des fruits et qu'il y ait cette joie parfaite. Alors, on va voir que cette fécondité, c'est l'amour fraternel. Et ceci implique l'unité et la joie. Sarment doit être mis au tronc et doit être coupé. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans l'amour, le mien. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez en mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. Vous voyez que l'exemple est donné immédiatement entre la relation de Jésus et de son Père. Alors on dépasse complètement les comparaisons. Hein. Les comparaisons se prennent du côté de Jésus et subitement la comparaison se prend entre la relation du Père et du Fils. C'est très beau, si vous voulez, comme jeu d'analogie. Le jeu de l'analogie est merveilleux. Hein, parce que on garde les modalités, les comparaisons, elles sont très impliquées l'une dans l'autre, les unes par rapport aux autres. Hein. On passe constamment. Mais ce qui est important à noter, c'est que l'unité d'amour qui doit exister a comme modèle, comme cause, l'unité qui existe entre le Fils bien-aimé et le Père. Autrement dit, tout le mystère de l'Église ne peut se comprendre qu'à travers cette unité du Fils bien-aimé et du Père. Tel est mon commandement à moi. Donc, je vous ai dit cela pour que la joie, la mienne, soit en vous et que votre joie trouve sa plénitude. Tel est mon commandement à moi, que vous vous aimiez les uns les autres. Personne n'a de plus grand amour que de livrer sa vie pour ses amis. Je vous livre, vous êtes, vous, mes amis, si vous faites ce que moi, je vous commande.
Je ne vous appelle plus esclave, parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi pour que vous alliez, vous, et portiez du fruit et que votre fruit demeure. Pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Donc nous voyons bien comment tout le mystère de l'Église, dans sa pointe ultime, c'est l'exigence de la charité fraternelle. Et que c'est cette exigence de la charité fraternelle, ou la pratique de la charité fraternelle, qui glorifie le Père. Donc le Père est à l'origine et le Père est au terme. La fin. C'est le Père. L'Église, c'est pour le Père. Et l'Église, c'est pour glorifier le Père. Et Jésus institue l'Église pour glorifier le Père. Pour qu'il y ait des hommes qui aiment, qui l'aiment, comme lui-même aime le Père. Et par là, qu'il puisse y avoir cette surabondance d'amour pour glorifier le Père. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est que vous aimiez les uns les autres. Si le monde vous hait, alors, nouvelle précision. Cette église, elle est dans la lutte. Il y a la haine. Il y a la haine qui veut détruire cet amour, qui veut détruire cette charité fraternelle. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que moi je vous ai choisi du monde, du milieu du monde, voilà pourquoi le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que moi je vous ai dite, l'esclave n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, vous aussi ils vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais tout cela, ils le feront contre vous, à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Donc, tout doit se réaliser dans cette lutte et dans le prolongement même des luttes du Christ, puisque le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si vous n'étiez pas venu, si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Et maintenant, ils sont sans excuse pour leur péché. C'est aussi très important cette parole de Jésus. Si je n'étais pas venu, il ne leur avait pas parlé, ils n'auraient pas de péché. La venue du Christ a réalisé et mûri toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Et par le fait même, a réclamé une nouvelle exigence de foi et d'espérance. Et c'est pour ça que Jésus peut dire, si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils sont sans excuse pour leur péché. Celui qui me hait, hait aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils ont vu,
Ils m'ont haï, et moi et mon Père. Mais c'est pour cela que s'accomplit, la parole qui se trouve écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans raison. Donc, voyez que tout ce passage, hein, tout ce chapitre 15, du moins, toute cette partie de ce chapitre 15, tout ce début de ce chapitre 15, presque jusqu'à la fin, sauf les deux derniers versets, c'est tout le mystère de l'Église qui est représenté ici, qui est représenté dans la lumière du paraclet, c'est bien évident, mais le rôle du Père est très unique. Il n'a jamais été affirmé avec autant de force. Et ça, c'est aussi un aspect tout à fait propre à saint Jean. C'est de montrer le mystère de l'Église dans sa fécondité. Jean nous montre que l'Église, c'est pour qu'il y ait plus de charité fraternelle. C'est pour ça. C'est pour que la charité fraternelle surabonde. Et c'est ça qui glorifie le Père. Enfin, nous essaierons de revenir parce que je crois que ça doit nous apporter une lumière très importante par rapport au concile et par rapport à ce que nous devons vivre. Parce que c'est quand même quelque chose de très très particulier. Ça n'a pas été dit avant. C'est toujours très impressionnant quand ça n'a pas été dit avant et que subitement ça nous est donné pour que nous comprenions mieux quelque chose qui est tout à fait ultime, tout à fait dernier. Sur quelque chose qui est tout à fait dernier, c'est justement cette exigence de la charité fraternelle et cette taille du Père pour cette charité fraternelle.